Bonsoir. Situation sécuritaire au nord Kivu. Plusieurs localités des territoires de Rutshuru et Nyiragongo, jadis occupées par les M23, ont été reconquises depuis ce week-end par les FRDC avec le soutien de la MONUSCO. Parmi ces localités, on note la base militaire de Rumangabo reprise ce lundi matin par les FRDC. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 28 octobre 2013. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Julien Paluku, gouverneur de la province du nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capri.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. Maître Juvenal Munubo, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Et le professeur Pierre Virgence, il est professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo en RDC. Professeur Pierre Virgence, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Merci parce que vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Grâce Bagoula depuis Bukavu, Sud Kivu. Je pense que la libération de toutes ces localités congolaises des mains du M23 doit être saluée. Cependant, la question que tous les Congolais se poseraient, c'est celle de savoir pourquoi les rebelles ont libéré Rutshuru, un territoire juste longtemps occupé, sans beaucoup de résistance. N'est-ce pas là une sorte de politique qui ne dit pas son nom? CIC, un autre auditeur qui dit ceci, qui veut la paix, prépare la guerre. Cette fois-ci, au lieu de continuer à tergiverser à Kampala avec des discussions interminables, que l'option militaire prenne les dessus et ce n'est qu'après que l'option diplomatique interviendra avec le mentor du M23. Merci de nous suivre à Rutshuru dans la province du Nord Kivu sous la 95.3 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Rumangabo, une importante base militaire à 50 km au nord de Goma, est désormais sous contrôle des forces armées de la RDC. Les FRDC y ont fait leur entrée triomphale aujourd'hui vers 11h locale, sous les acclamations de la population. Les combattants du M23 qui occupaient ce camp depuis plus d'une année venaient de se retirer du secteur selon plusieurs sources sur place. Par ailleurs, le porte-parole des FRDC au nord Kivu annonce que la totalité du groupement de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo est désormais sous contrôle des FRDC. Récit des faits avec vous, Gisèle Cage.
C'est sans combat que Rumangabo est passé sous contrôle des forces armées de la RDC. Les combattants du M23 ont abandonné cette localité, ainsi que le camp militaire tôt ce matin avant de prendre le chemin de Runyoni, un secteur frontalier avec le Rwanda. Par ailleurs, les combattants du M23 ont également été délogés de la colline de Heu, à l'est de Kibumba, presque à la limite RDC-Rwanda, d'après Olivier Amouli, porte-parole des FRDC au Nord Kivu. La colline de Heu constituait le dernier verrou du M23 dans la région de Kibumba. Aussitôt, les soldats loyalistes ont fait leur progression vers Rugari, 10 km plus au nord de Kibumba. Mais ici aussi, le M23 avait déjà détalé avant l'arrivée des forces régulières. D'autres localités de Rutshuru sont totalement dégarnies des rebelles. C'est notamment Rubare, Kako, Kalengera, Biruma, Tchengerero et Katale sur l'axe Goma-Kiwanja. Selon toujours Amouli Olivier, les forces armées de la RDC ont mis le cap sur Tchengerero, Bunagana et Runyoni, où le gros des combattants du M23 se sont retranchés. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Les habitants de Kiwanja ont exprimé leur joie après avoir été libérés de l'emprise du M23, tout en félicitant les forces loyalistes pour leur détermination. Ils souhaitent que les FRDC ne se retirent plus jamais de Kiwanja. On les écoute au micro de notre envoyé sur place à Kiwanja, Rosalie Zawadi.
Quand on a vu le FRDC venir ici chez nous à Rutshuru, nous avons été contents et nous disons vraiment merci au FRDC de continuer à traquer l'ennemi. Ici chez nous on souffrait, il arrivait à 18h, on dormait directement. Mais actuellement on est en train de dormir à 22h, nous sommes libres vraiment, nous disons merci au FRDC. Et puis on demandait de payer les jetons de recensement, aujourd'hui on ne paye pas les jetons de recensement. En tout cas la population est très vive avec le FRDC, nous félicitons vraiment la présence des FRDC ici à Rutshuru. Nous disons merci beaucoup vraiment.
Il y a des moments où FRDC est arrivé ici dans la cité et le lendemain nous les avons manqués dans la cité et c'est vrai qu'ils vont rester pour du bon Et ici récemment, Kobler lui-même nous disait qu'il faut rentrer à Kampala. Et si les gens rentreront à Kampala, c'est pour encore aller demander à ces gens avec qui nous vivons, dans des inquiétudes, dans des problèmes, de revenir dans notre cité.
Depuis qu'on nous avait informé que le FARDC est en train de mener sur le terrain, on les attendait à bras ouverts. Eux-mêmes, ils sont informés aussitôt qu'ils sont arrivés. Juste à Kitoboko, tout le monde était en cours de chemin pour les attendre. Et ils ont senti réellement que la population les attendait à bras ouverts. Et nous souhaitons au FARDC de continuer jusqu'à Runyoni, jusqu'à aller poursuivre l'ennemi dans son dernier demeure.
Nous sommes vraiment tellement contents de voir comment est-ce que nos militaires ont parvenu maintenant à libérer notre territoire. Parce que ça faisait bel et bien longtemps qu'on n'avait plus quand même confiance aux politiciens de notre pays. Parce qu'on pensait que peut-être ils étaient quand même en train de faire quand même des farces. On ne savait pas qu'on pourrait aujourd'hui pareil.
Du côté du M23, ce mouvement rebelle menace de se retirer des négociations de Kampala actuellement suspendues si la médiation ougandaise n'obtient pas une cessation immédiate des hostilités en cours dans l'est de la RDC et d'organiser une contre-offensive de grande envergure contre toutes les positions ennemies. C'est ce qu'a déclaré Mani Kabasha, chef de la communication du M23. Dans un communiqué publié ce dimanche, le M23 indique qu'il refuse de combattre dans la cité de Kiwanja et s'y retire sans combat, laissant la gestion sécuritaire des Kiwanja aux forces de la MONUSCO. Monsieur le gouverneur, dites-nous, vous avez été à Kiwanja, un retour aussi, j'imagine. Quelle est la situation actuellement ou ce soir?
Oui, merci madame. Je suis votre internaute qui a dit qui veut la paix prépare la guerre. Et moi, je vais ajouter qui prépare la guerre dans la précipitation court le risque de la perdre. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir de tout ce long temps que le gouvernement congolais a observé avant d'en arriver à ces résultats. Je viens de Kiwanja, je viens de Rutshuru, chef-lieu du territoire où j'ai tenu un meeting devant une foule nombreuse qui m'a accueilli chaleureusement, les uns coulant en larmes parce que ne s'imaginaient pas que l'autorité de l'État pouvait être rétablie. Aujourd'hui, Kiwanja, Rutshuru, chef-lieu et la base de Rumangabo et dans quelques heures Bunagana sont entre les mains des forces armées et donc l'autorité de l'État est en train d'être rétablie. C'est un signal fort pour le retour de la paix, c'est un signal fort pour la reconstruction du Nord Kivu, parce que les groupes armés, comme je viens de le dire, ont distrait les efforts de développement, les efforts de pacification, et aujourd'hui que l'M23 est en train d'être défait, pas parce qu'il a libéré volontairement les espaces, mais parce qu'il a été contraint par la puissance des faits des FARDC. Si Rumangabo est tombé aujourd'hui, c'est parce que Kibumba, où il a concentré la plupart de ses forces, a été totalement détruit par les FARDC. Et les FARDC ont pris la stratégie de suivre au pas à pas les éléments du M23 à chaque moment où ils se repliaient. C'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas eu les traits de l'organisé, aussi bien à Rumangabo, à Kalengera, à Tamugenga, et aujourd'hui ils sont dans les collines de Runyoni.
Et donc, monsieur le gouverneur,
c'est un pas important pour la paix ici au Nord Kivu.
Alors, vous confirmez, monsieur le gouverneur, qu'une grande partie des localités des territoires de Rutshuru et Nyiragongo sont entre les mains des FARDC?
L'entièreté du territoire de Nyiragongo au nord de Goma est entre les mains des FARDC et les chefs-lieux du territoire de Rutshuru, comme symbole de l'administration, est entre les mains des FARDC. Aujourd'hui, on peut dire que le territoire de Rutshuru, à 95%, est entre les mains des FARDC. Il ne reste que le triangle de la mort qu'on appelle Mbuzi, Tchanzu et Runyoni, d'où le M23 avait lancé les opérations en avril 2012.
Et qu'en est-il de ce mouvement, monsieur le gouverneur?
Bon, je ne pense pas que on me demande ce qu'il faut advenir de ce mouvement parce que les Nations Unies, la CIRG, l'Union Européenne, l'Union Africaine, toutes les organisations internationales ont reconnu le M23 comme force négative. Je pense que ce qu'on peut demander aujourd'hui au gouvernement congolais, c'est que le gouvernement congolais dise à la communauté internationale de prendre acte de l'accomplissement finalement de la mission. Et ce sera au nom de la souveraineté. Parce qu'il s'agit de l'accord cadre. L'accord cadre a bien respecté la souveraineté de la RDC. Et si aujourd'hui, ils ont de ces droits-là, la RDC estime qu'il faut détruire toutes les forces qui déstabilisent la région des Grands Lacs, je crois que c'est dans son droit. Je suis heureux d'avoir appris de la bouche de Martin Kobler, qui est représentant spécial, avec qui nous étions à Kiwanja, je suis heureux d'avoir appris de sa bouche la fin de la cohabitation entre la MONUSCO et tous les groupes armés au Nord Kivu. C'est un signal fort Je crois que l'ensemble du peuple congolais doit prendre cette phrase comme la phrase qui doit éclairer l'avenir, parce que lorsque la RDC disait que l'option militaire est la seule à libérer cet espace, il y en a qui doutaient. Et je suis heureux que tout le monde aujourd'hui a compris que finalement, nous devrions en arriver là. Et le chef de l'État, lui qui avait lancé cette option, a pris beaucoup de temps pour y arriver, parce que s'il avait préparé la guerre à la précipitation, on courait les risques de la perdre.
Mais comment vous expliquez, monsieur le gouverneur, cette montée en puissance des FARDC et ce retrait sans combat des rebelles du M23?
La montée en puissance est expliquée par deux éléments. Le premier élément, c'est l'infiltration des FARDC. Le deuxième élément, c'est la trahison. Tous ces éléments qui se retrouvent aujourd'hui dans les rangs des M23, c'était effectivement des infiltrés. C'était effectivement des traîtres au sein des FARDC. Du moment qu'ils ont quitté totalement, parce qu'il y avait un moment donné où, quand nous nous battions avec les M20, on a encore une partie qui s'est les FARDC. Et ces gens-là ont fait des sections au jour le jour. Mais comme ils ont quitté totalement les rangs des FARDC, aujourd'hui, toute planification est faite sans que l'ennemi ne soit informé, même des niota de ce qui se planifie. C'est la réussite. Lorsque la planification n'est pas connue par l'ennemi, il va de soi que la réussite est totale. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été fait à Rutshuru, à Kiwanja, à Bounagana ce soir, en Tamugenga, à Kibumba, où on a libéré toutes les positions, malgré l'artillerie qui était basée à la frontière rwandaise, je crois que c'est le secret de l'homogénéité au sein des FARDC, où on a élagué des éléments qui servait les intérêts étrangers, comme tout le monde pouvait s'en apercevoir.
Alors, on va prendre pour vous, monsieur le gouverneur, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Maître Francis Dojoté Ponze Balogombe, depuis Kinshasa, commune de Ngaliema. Ne pas reconnaître la montée en puissance des FARDC, c'est être ennemi de la paix. Mais cela ne doit pas être un motif de chantage ou de triomphalisme de la part du gouvernement congolais. Que l'invité qui représente le gouvernement congolais nous dise. Étant donné que les M23 sont plus actifs sur les plans militaires que sur les plans politiques et diplomatiques, aujourd'hui les FARDC viennent de les dissuader. Il ne serait pas souhaitable de se concentrer uniquement sur les plans militaires, car il y a 10 mois depuis que Kampala a commencé, mais il n'y a rien de fructueux et il n'y en aura pas. Et en même temps, c'est les trésors publics congolais qui pourraient renforcer nos militaires au front qui est sacrifié pour un dialogue des sourds.
Réaction, monsieur le gouverneur.
Je suis d'accord que nous devons éviter le triomphalisme pour travailler en interne. Parce qu'effectivement, les FARDC qui ont pris du terrain aujourd'hui doivent davantage consolider les espaces, doivent s'attendre à ce que, à tout moment, l'ennemi peut chercher à se réorganiser avec tous les appuis qu'il a toujours. Mais la détermination sur le terrain m'assure et me rassure et démontre que les FARDC d'hier ne sont plus celles que l'on observait. Et je crois que les Congolais doivent apprendre à aimer leur pays, à aimer leur armée. Les faiblesses que nous avons connues n'ont pas été une fatalité. Je le dis souvent, toutes les armées du monde traversent les étapes comme celles que nous traversons.
Merci.
Et je suis heureux que, à force d'avoir connu des défaites, à force d'avoir été humilié, aujourd'hui, tous les militaires qui sont sur la ligne de front, dure que par redorer l'image du peuple congolais, redorer l'image du commandant suprême pour qu'à jamais des aventuriers ne viennent faire du n'importe quoi dans le pays.
Merci, monsieur le gouverneur, maître Juvenal Mounoubo Moubi. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette situation, cette montée en puissance des FARDC?
Avant de donner l'explication de cette montée en puissance, Madame Kelly, je voudrais dire toute ma satisfaction par rapport à ces progrès militaires enregistrés sur terrain. C'est une satisfaction partagée aussi au sein de mon parti, l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC. J'aimerais féliciter ici les forces armées de la République démocratique du Congo pour cet acte de bravoure. Je voudrais féliciter aussi la MONUSCO et la brigade d'intervention qui constituent une force d'appui aux efforts de la République démocratique du Congo, donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces félicitations, je les ai transmises d'ailleurs ce matin à M. Rey Torres, qui m'a reçu à son bureau, qui est le chef du bureau de la MONUSCO au Nord Kivu. Je voudrais féliciter aussi la population qui n'a pas perdu espoir, qui a gardé espoir d'un retour à la paix. L'UNC soutient ces efforts. Pourquoi? Parce que nous nous inscrivons dans le sens du rétablissement de l'autorité de l'État. il faut que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est d'ailleurs le deuxième engagement souscrit par le gouvernement de la République démocratique du Congo le 24 février de cette année à Addis Abeba, dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Je demanderai et je souhaite d'ailleurs que les FARDC ne reculent pas et qu'ils aillent de l'avant. Pourquoi ? Parce que notre souci, comme je le disais, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Il faudrait, pour les localités qui viennent d'être libérées, y installer le plus rapidement possible l'autorité de l'État, c'est-à-dire l'armée, la police, la justice, l'administration publique. Bien entendu qu'un effort doit demeurer constant, permanent, c'est celui de la réforme du secteur de sécurité au Congo. Bientôt, au niveau de l'Assemblée nationale, sûrement il y aura un débat sur le budget. Et s'agissant de l'armée, nous devons, en tout cas, je parle des députés, voter des crédits budgétaires conséquents et au gouvernement de nous proposer des crédits budgétaires conséquents qui prévoient par exemple l'augmentation de la solde des militaires. C'est important. Bien évidemment, il ne faut pas oublier aussi la loi de programmation militaire, triennale ou quinquennale. Alors, je reviens maintenant. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance? Et d'ailleurs, la montée en puissance ou la progression, elle ne date pas que d'aujourd'hui. Déjà en juillet 2013, on a constaté effectivement, après la bataille de Moutao, on a constaté que les FARDC reprenaient la main. D'ailleurs, j'avais fait une intervention à Jeune Afrique dans ce sens. Et je me dis que, et comme je l'avais dit d'ailleurs à ce temps-là à Jeune Afrique, c'est aussi en partie grâce aux critiques, aux observations que nous avions sans cesse adressées à nos forces armées, au gouvernement de la République démocratique du Congo pour que des ajustements nécessaires soient réalisés au niveau du commandement, au niveau des conditions sociales des militaires. Ces conditions ne sont pas encore améliorées, bien évidemment, mais on a quand même noté quelques améliorations. Donc ça ne s'est pas fait par génération spontanée. Il y a des efforts, sans doute, du gouvernement, et il doit faire davantage. Il y a les efforts aussi de ceux qui ne participent pas dans les gouvernements. Je vois ici l'UNC, par la bouche d'ailleurs de son président, maintes fois, a émis les soucis de voir l'autorité de l'État être rétablie. C'est aussi l'effort des députés nationaux, ceux du Nord Kivu, par exemple, du Sud Kivu et d'autres, des députés membres de la Commission de Défense et de Sécurité. Donc je crois que l'élan doit être maintenu. Que cet axe routier soit, je dirais, dégagé, c'est une bonne chose parce que ça permettra non seulement aux forces de l'ordre de se déployer, mais aussi aux commerçants, aux usagers de la route, de pratiquer encore une fois aisément leurs activités sur cet axe, parce que cet axe va jusqu'à Butembo et même au-delà. Et puis, je crois que les prochaines batailles, il faudra effectivement les faire. Pourquoi ? Parce que Bunagana, par exemple, c'est un poste stratégique situé à la frontière. Une prise de Bunagana, par exemple, eh bien, ça permettra au FARDC de consolider cette victoire.
Alors, maître Donc,
je
Juvenal...
me réjouis de cette victoire. Je demande que l'élan soit maintenu. Et puis, je me dis que c'est un effort conjugué. Donc, ce n'est pas l'effort du seul gouvernement, c'est un effort conjugué. Nous avons rappelé sans cesse comment les choses devraient se faire. Et si on est arrivé là-bas, ce n'est pas comme par un coup de baguette magique.
Merci.
Il y a eu des rappels, il y a eu un suivi à différents niveaux.
Merci, maître Juvenal Munubo. Il y a Grace Bagula qui nous écrit depuis Bukavu, qui se demande, qui salue bien sûr cette montée en puissance des FARDC, mais se demande pourquoi les rebelles ont libéré Rutshuru, un territoire juteux qu'ils ont longtemps occupé, sans beaucoup de résistance. N'est-ce pas là une sorte de politique qui ne dit pas son nom, selon cet auditeur de Bukavu?
Je ne pense pas qu'il faille directement voir là-bas une stratégie politique d'emblée, en tout cas je ne vois pas. Eh bien, ce qui est là est que lorsqu'on voit une force se retirer, soit que la capacité dissuasive des FARDC s'est vue renforcée, et actuellement cette capacité elle est beaucoup plus forte que dans le passé. Donc d'emblée, moi je ne vois pas là-bas une manœuvre politique qui aurait permis ce retrait. Donc je suis réservé par rapport à ça, je note ce qui est arrivé et je vous dis toute ma satisfaction et mon souhait de voir les progrès être enregistrés davantage dans
Merci.
Les prochains jours sur cette partie du territoire.
Merci, maître Juvenal.
Les rétablissements de l'autorité de l'État sans lesquels On ne peut pas faire autre chose en termes de développement.
Merci Maître Juvenal, professeur Pierre Virgence, professeur à l'Université de Liège en Belgique et à l'Université de Boutembo. En RDC, quelle est votre analyse à vous par rapport à la libération de ces localités par les FRDC?
Eh bien, je crois que c'est un moment important dans l'histoire du Congo, puisque les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de prendre l'offensive, et ça fait très 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 longtemps qu'on attendait que les forces du Congo prennent une initiative sur le plan militaire, parce que jusque maintenant, elles avaient été passives et elles n'avaient pas attaqué. Alors donc d'une part effectivement quand on regarde ça d'un œil extérieur, on se dit que c'est très positif que les forces armées de la République démocratique du Congo aient pris une initiative. Maintenant, d'autre part, se pose effectivement la question que votre internaute posait, c'est la question de savoir mais pourquoi le M23 ou les gens qui approvisionnent le M23 ont laissé le combat se finir aussi vite puisqu'il n'a même pas réellement commencé, et comment se fait-il effectivement que le Rwanda, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ait laissé le territoire. Là, on verra effectivement s'il s'agit, mais c'est ultérieurement qu'on le saura, malheureusement c'est pas maintenant qu'on le sait, on verra si c'est bien une montée en puissance réelle des forces armées de la République démocratique du Congo, ou bien si c'est simplement un changement de stratégie ou de tactique en fonction de raisons diplomatiques internationales de la part du Rwanda. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, l'opinion publique et la société civile dans le Nord Kivu, qui avaient vraiment agi beaucoup pour essayer de motiver les hommes politiques à intervenir et à prendre l'initiative dans ce dossier-là, elles sont enfin écoutées et elles ont l'impression que leur pression ont peut-être servi à quelque chose.
Alors, professeur, il y a certains observateurs qui parlent de la faiblesse ou de l'affaiblissement du mouvement M23.
Oui, ça paraît évident, parce que quand un mouvement qui s'est manifesté par son agressivité militaire évoque comme seule sanction possible le fait d'arrêter des négociations à Kampala, c'est un signe de faiblesse, bien entendu. Jusque-là, c'était l'inverse. Il disait que si on n'avançait pas dans les négociations à Kampala, il prendrait l'initiative militaire. Ici, le renversement de discours, eh bien, le signe d'un affaiblissement réel du M23, ça, c'est une réalité. Et ce qu'on se pose donc effectivement comme question, c'est pourquoi les alliés du M23 le laissent tomber pour le moment, mais aussi on doit se réjouir, hein, c'est vrai, les deux intervenants précédents l'ont bien dit, je pense qu'en fait le gouverneur de la province connaît mieux la situation sur le terrain que nous ici, et c'est vrai qu'on peut se réjouir du fait que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris l'initiative. Ça paraît évident que le M23 est relativement affaibli pour le moment parce que les forces des FARDC ont pris l'initiative.
Alors le M23 a publié un communiqué hier dans lequel il menace de se retirer de Kampala. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'évolution ou la situation actuelle ou l'avancée des FRDC pour reconquérir les localités jadis occupées par les M23?
Oui, non, on n'a pas l'impression que cette menace-là va vraiment jouer. On peut supposer que les calculs diplomatiques et politiques ont été faits à l'état-major des forces armées, et que l'attaque actuelle est bien programmée, et que ce n'est pas la menace de se retirer de négociation qui va faire peur à qui que ce soit. S'ils se retirent de négociation alors qu'on avait fait des négociations parce qu'ils avaient une capacité de nuisance, tant mieux, ça veut dire que leur capacité de nuisance est terminée, d'une certaine manière. Maintenant, il faut voir les conséquences diplomatiques, parce qu'il y a peut-être dans les puissances internationales des gens qui se disent qu'il est utile de garder un aiguillon, en quelque sorte, dans l'est de la RDC, et là, c'est tous les soupçons que les Congolais font peser sur la diplomatie internationale et que tout le monde connaît.
Alors, on va prendre pour vous, professeur, cette réaction qui nous vient de Bukavu.
C'est Arnold Ondemi, à partir de Bukavu, au Sud-Kivu. On ne négocie pas avec la rébellion. la masse. Le gouvernement congolais a enfin montré qu'il était prêt à écouter le peuple en utilisant les armes pour combattre le M23. Et il est maintenant grand temps qu'on mette fin au pourparler de Kampala car il ne sert plus à rien. Et les fonds qui sont utilisés pour ce pourparler doivent être affectés aux militaires et les redonner pour encouragement.
Alors professeur, je ne sais pas si vous avez compris la question de cet auditeur. Il demande assez qu'on puisse mettre fin carrément au pourparler de Kampala car ils ne servent plus à rien avec cette montée en puissance des FRDC.
Mais d'une certaine manière, je pense que le gouvernement congolais à l'heure actuelle a peut-être intérêt à continuer les négociations, simplement en signalant aux interlocuteurs que les conditions du dialogue ont bien entendu changé et que l'objet de la discussion a évidemment changé. Il ne s'agit plus maintenant de savoir quelle partie du territoire, ou c'était là, ce que le M23 voulait mettre sur la table, hein, quelle partie du territoire devait être gérée par le M23. Ici, il s'agit maintenant de savoir quelles sont les conditions de la reddition des officiers et des hommes de troupes du M23. Et évidemment, ça veut dire qu'on peut continuer à négocier. Il vaut mieux d'ailleurs continuer à négocier avec tous les adversaires possibles dans le monde. Hein. Il vaut mieux continuer à négocier, mais en montrant que le rapport de force sur le terrain a été modifié.
Merci, professeur Virgence. Il y a des auditeurs qui sont très nombreux à nous écrire. Fabrice Kougaya, depuis Goma au Nord, qui vous dit ceci. Le M23 est sorti sans combat, comme il est entré. Ce sont les consignes qui ont été mises en jeu pour en finir la guerre du Nord. Qui vous est plutôt politique que militaire? Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Est-ce qu'on peut dire que cette guerre du Nord, qui vous, est plutôt politique que militaire?
Mais non, c'était la grande inquiétude des habitants du Nord Kivu. C'est vrai que cette guerre soit essentiellement politique et je dirais aussi minérale. Hein. Il s'agissait d'enlever des richesses minières au Congo. Donc c'était la principale motivation. Maintenant, dire que ce n'était pas militaire, c'est un peu une erreur, parce que je dirais il y a quand même eu un nombre de morts tout à fait impressionnant, et ces gens-là n'étaient pas des naïfs ni des rigolos. Je veux dire, c'était des vrais tueurs, et ils ont fait des morts. Donc il ne faut pas évacuer la dimension militaire, même si la raison principale, et là je suis d'accord, est une raison probablement, je dirais, politico-financière.
Merci, professeur Pierre Virgence. Monsieur le gouverneur, il y a Dabson Etungano Abwe depuis Baraka au Sud Kivu qui dit ceci. Les résultats des combats au Nord Kivu prouvent que la voie militaire est la seule qui puisse sauver le pays de la turbulence du M23 et ses alliés. Le gouvernement doit aller jusqu'au bout car les rebelles manifestent leur faiblesse. Revenir à Kampala serait une perte de trop et se traduirait par un acte de haute trahison car cela donnerait aux rebelles et leurs parents le temps de se réarmer. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le gouverneur? Je crois qu'on a un souci avec la ligne du gouverneur. La réalisation va essayer de le retrouver. Maître Juvenal Mounoubo, vous pouvez répondre à la préoccupation de cet auditeur.
Pour le fait que Kampala a pris beaucoup de mois, Madame Kelly, ça a pris plus de 10 mois, si j'ai bonne souvenance, et sans perspective de conclusion, là je paraphrase les discours sur du chef de l'État, eh bien moi je pense que l'opportunité de continuer Kampala, par le fait que ça a pris beaucoup de temps, sans trouver une solution négociée, et le fait que à chaque fois il y a eu changement même de l'objet des revendications, et moi je crois que le moment est venu pour clôturer Kampala. En tout cas l'option au sein de l'Union pour la Nation Congolaise avait été prise bien avant même les concertations nationales. L'idée c'était de clôturer Kampala et de reverser les dossiers qui n'auront pas été soldés à Kampala dans le cadre d'un dialogue national inclusif. Malheureusement, et je pense que vous avez suivi avec moi, qu'on n'a pas eu véritablement ces dialogues nationaux inclusifs. Donc, pour répondre directement à la question de l'auditeur, je crois que ça ne vaut plus vraiment la peine de continuer à passer des mois à Kampala. Mais cela n'exclut pas les dialogues. Pourquoi? Parce qu'il faut un dialogue, cette fois-là, sur le plan régional. Parce que nous voulons que l'autorité de l'État soit le plus rapidement possible rétablie ici au Nord Kivu, au Congo, mais nous voulons effectivement que dans l'espace Grand Lac, qu'il y ait la paix et la confiance mutuelle. Et nous ne pouvons obtenir ça qu'à travers un dialogue sur le plan régional. Donc ça serait, à mon sens, une deuxième étape. Je crois que ce qui est urgent à faire pour le moment, c'est effectivement de poursuivre, de maintenir l'élan et de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Et il n'y a pas qu'à Rutshuru. Je crois que l'autorité de l'État doit être rétablie même dans d'autres territoires.
Merci.
Comme à Massissi, à Walikale, au sud de Lubero, partout où sévissent encore l'activisme des groupes armés.
Merci Maître Juvenal Mounoubo. Monsieur le gouverneur, vous êtes en ligne?
Oui, madame.
Voilà. Dites-nous, monsieur le gouverneur, quel a été l'apport de la MONUSCO dans la reconquête de toutes ces localités qui étaient jadis occupées par les M23?
Oui, le rôle de la MONUSCO n'est plus à démontrer, parce que vous savez que le Conseil de sécurité lui-même a créé la résolution 2098, et on l'a vu en août dernier, lorsque on a détruit la base de Kibati, Kilimanyoka, et la suite, pas plus tard qu'hier, on a vu un casque bleu d'une Tanzanienne qui est tombé à Kiwanja lorsque effectivement ils étaient en train d'appuyer les FRDC. Donc la MONUSCO a apporté tout son appui pour que finalement aujourd'hui les FRDC puissent récupérer l'ensemble des entités qui étaient sous contrôle du M23. Je voudrais revenir sur un aspect où les gens sont en train de dire que le M23 a libéré sa combat. Il faudrait que les gens comprennent. Moi, j'étais à Kiwanja à Rutshuru. Le M23 avait deux grandes bases militaires. Il y avait la base qui était installée dans le périmètre de Kibumba, qui était détruite, démantelée par les FRDC. Une autre base qui était à Kahunga, à 7 km de Kiwanja, qui était détruite. Et c'est quand la grande base militaire est détruite, il est impossible pour celui qui tenait cette base de devoir se réorganiser. C'est ce qui est arrivé au M23. Il ne peut plus se réorganiser ni à Rutshuru, ni dans les autres entités, parce que la grande base à laquelle il tenait et qu'il estimait ne pas être défoncé par les FRDC a finalement cédé. Donc ce n'est pas par volonté du M23 qui s'est retiré. Il a bâti à retraite parce que la puissance de feu des FRDC était supérieure. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers Bunagana, demain Ruyoni, après demain Chanzu, pour qu'on en finisse avec toutes ces aventures et que nous aussi, pour ressembler à notre province, où on parle de développement, on parle de route. Déjà ce soir, cet après-midi, on vient d'ouvrir la route et Goma-Rutshuru. Les premiers véhicules de vivres sont arrivés à Goma, avec comme conséquence, mais les prix de vivres vont baisser. Donc c'est ce genre de questions autour desquelles nous devons parler, pas de dire Kampala, retour, c'est ça pour aller faire quoi, alors que la RDC est en train de recouvrer son territoire qui lui était volé par quelques criminels qui sont répondus par les Nations Unies.
Alors, monsieur le gouverneur, il y a Mathieu Mukanda qui nous écrit depuis le New Jersey aux États-Unis. Il vous pose à vous la question. Il dit ceci, avec la convocation de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, ne craignez-vous pas que l'ONU arrête la progression des FRDC? Deuxième question, quelle est l'étendue d'espace encore sous contrôle du M23? Et enfin, sa troisième question, quel est le bilan de ces affrontements?
Merci beaucoup. D'abord, je ne sais pas si l'ONU comme organisation internationale peut se contredire aujourd'hui, après avoir fait voter la résolution par le Conseil qui demande de détruire les M23, les FDLR, les EDF, les tous les groupes, c'est-à-dire, si l'ONU se dédisait aujourd'hui, alors là, le peuple congolais, je dois le prendre en témoin, c'est qu'il y a un projet de balkanisation de ces pays. Je l'ai rappelé dans toutes les émissions que ce n'est pas possible que, lorsque l'État congolais est en train de recouvrer sa souveraineté, que les gens pensent qu'il y a une organisation internationale qui va aujourd'hui dire non, ne recouvrez pas l'espace de votre territoire, nous vous demandons d'arrêter. Donc si cela se passe, alors le peuple congolais devra savoir qu'il y a un projet de balkanisation contre lequel nous devrions nous lever tous, parce qu'il n'y a personne qui acceptera que ce centimètre puisse être cédé. Et deux, quel est le pays qui reste? Puisque la M23 est une série en territoire de Rutshuru, c'est la chefferie de Boucha, en partie d'ailleurs, deux groupements de Jomba et de Rugari, ce sont ces deux groupements et un peu et le groupement de Bweza qui étaient tenus par les M23. Maintenant que l'IA est évacué, aujourd'hui ils sont dans le triangle, dans la frontière avec le Rwanda, le triangle qu'on appelle Chanzu, Rumi et Mbuzi. Donc si le FRDC se concentre au stade actuel, pendant deux jours, on peut estimer qu'on a terminé cette histoire et commencé autre chose. De trois, le bilan c'est lequel? Nous sommes allés aujourd'hui d'avoir récupéré la base militaire de Rumangabo, qui est une grande base. Nous avons récupéré une importante cargaison de munitions, d'armes lourdes, que les M23 détenaient. On sait, ils les ont tirés d'où? Tout le monde peut s'imaginer d'où c'est venu. Je crois que sur le plan militaire,
cela est un affaiblissement majeur du R23 et ça étale aux yeux du monde qu'effectivement ce mouvement bénéficiait des appuis dont nous pensons que c'est devenu un secret des polichinelles.
Merci, monsieur le gouverneur. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Justin Chéri, depuis Louvain-la-Neuve, en Belgique, dit ceci. Le rapport des forces sur le terrain à l'avantage des FRDC démontre que finalement, la RDC peut se passer du schéma des Kampala pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. La République démocratique du Congo ne doit plus faire des concessions en faveur des rebelles. Patrick Oufoyou, Louvain-la-Neuve, également en Belgique. Il est temps que les F, que le M23 et tous ceux qui les soutiennent militairement sur le terrain puissent déposer les armes. Professeur Pierre Virgence, est-ce qu'on peut parler de la fin de la guerre avec cette montée en puissance de FRDC? Allons-nous vers la fin de la guerre?
C'est très difficile à dire pour le moment. Évidemment, ça, le gouverneur de la province a probablement des informations factuelles, je dirais géographiques et militaires plus importantes et plus précises que celles que nous avons, nous, ici, à l'extérieur. Ce qui se passe, en tout cas, c'est que c'est un retournement de la situation de guerre, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les FARDC qui ont l'initiative. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Mais je ne pense pas que c'est parce que la situation s'est retournée, que ça va être tout de suite fini. Voilà, ça arrive souvent dans une guerre que le retournement des rapports de force implique encore de nombreux mois de combat pour terminer de chasser les envahisseurs, pour terminer la fin en fait d'un groupe rebelle. Et donc ce n'est pas parce qu'il y a un retournement à l'heure actuelle que la guerre va être finie dans les semaines qui viennent, pas nécessairement en tout cas, mais ça de nouveau, c'est plutôt le gouverneur qui connaît la situation locale, qui pourra confirmer ou infirmer si l'affaiblissement du M23 est de telle ampleur qu'il va devoir cesser d'exister comme groupe rebelle, il va devoir se replier, soit se disperser, soit se replier sur un pays voisin, soit alors, effectivement, ils ont encore une capacité de résistance et ils vont tenir pendant encore quelques semaines ou quelques mois.
Merci, professeur. Maître Juvenal Mounoubou, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga, au Kasai Occidental. La situation actuelle du Nord Kivu prouve une certaine complicité qui existerait entre certains responsables du gouvernement et les membres du mouvement rebelle M23, car comment expliquer la même manière dont certaines localités sont reconquises par les FRDC, c'est de la même manière que les M23 prenaient ces mêmes localités, c'est-à-dire sans combat d'une part et sans trop de résistance de l'autre.
Maître Juvenal.
En fait, je n'ai pas d'éléments qui montrent ou qui peuvent montrer une quelconque connexité entre les M23 ou les responsables congolais. Donc, je ne saurais pas faire des affirmations ou des confirmations. Et d'ailleurs, si de telles connexions arrivaient à être prouvées, eh bien, ça ne serait pas du tout soutenable. Donc, sincèrement, je n'ai pas de preuves sur ce genre de connexions. Ce qui arrive, de l'analyse donc factuelle, ce qui arrive, on constate effectivement que les FRDC font leur travail mieux que l'année passée. Et ce qui arrive, comme je l'ai dit en introduction de l'émission, il ne faudrait pas penser que c'est la victoire du seul gouvernement. Eh bien, il faut voir, il faut suivre l'évolution, et en suivant l'évolution de cette question, eh bien, on s'aperçoit bien, on peut résumer les efforts qui ont été faits, et ces efforts sont provenus même des partis politiques, comme je le disais, de l'UNC, des députés, de la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a un soldat, un élément du contingent de la brigade d'intervention qui est tombé, qui est décédé, paix à son âme. Donc, c'est l'effort conjugué de plusieurs acteurs qui arrive à cette situation. Donc, je pense avoir répondu à la question de l'auditeur. Je n'ai pas des éléments à ma possession qui peuvent me pousser à tester ou à établir une telle connexion.
Merci.
Et une telle connexion serait, à mon sens, très condamnable. Mais je me réjouis des résultats obtenus jusqu'à présent et encourage le FRDC à poursuivre la progression. En fait, ça ne serait pas intéressant qu'on assiste à des reculs comme dans le passé. Il faut éviter des reculs comme dans le passé. Et nous travaillerons effectivement en tant que députés pour suivre la situation, pour qu'il n'y ait pas de reculs, parce que cela est de notre rôle de contrôler les gouvernements et de les contrôler de plus près.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo. Monsieur le gouverneur, il y a un auditeur, malheureusement il n'a pas donné son nom, il propose que Rutshuru soit déclaré zone sinistrée. On a un problème avec votre ligne. Essayez de bouger un peu pour améliorer la qualité de la communication. On a un problème avec votre ligne, monsieur le gouverneur.
Oui, allô?
Ça s'améliore, c'est bon, vous pouvez y aller.
Je disais que Rutshuru, comme l'ensemble de la province Nord-Kivu, sont des espaces qui sont sinistrés depuis longtemps. Et moi, je crois que ce qu'on doit faire très rapidement, c'est de construire des îlots de paix dans les zones libérées, c'est de mettre en place un plan de relance économique de l'ensemble de la province Nord-Kivu, parce que nous sommes une province agro-pastorale, il faut rapidement qu'on ramène les gens au travail. C'est de faire un plan de contingence pour tous les déplacés parce que les zones sont libérées. C'est de faire en sorte que les réfugiés rentrent. Moi, je crois que c'est plein de mesures couplées, par exemple, à l'installation des administrateurs des territoires demain ou après-demain à Kiwanja, le nouveau chef de cité et de toute l'administration, cela va permettre le retour progressif de la paix dans les territoires de Rutshuru et la réaffirmation de l'autorité de l'État, et ce que nous allons faire dans les prochaines 48 heures.
Et voilà, cette proposition venait de l'honorable Katembo, député élu de Rutshuru au Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, lors de votre meeting cet après-midi, vous avez déclaré que la paix était enfin retrouvée. Est-ce qu'on peut parler réellement de la paix enfin retrouvée?
Je le pense bien, et j'y crois fermement, et c'est la raison pour laquelle moi-même j'ai été à Rutshuru. Je crois que ce qui est important, c'est d'encadrer ce qui vient d'être fait à Rutshuru. C'est de ne pas développer des doutes, c'est d'encadrer ce qui vient d'être fait pour dire, comme Rutshuru est pris, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai donné des entrées de mesures, et c'est la raison pour laquelle j'ai proclamé le territoire de Rutshuru un territoire sans armes, en disant qu'il n'y a que trois groupes qui sont autorisés à posséder les armes. Un, les FRDC. Deux, la police. Et trois, les éléments de la MONUSCO. À côté de cela, j'ai déclaré Rutshuru un territoire sans taxes ni impôts. Parce que les M23 tellement maturisé le temps, jusqu'au 31 décembre, on ne va faire payer à personne ni taxes ni impôts pour refaire les tissus socio-économiques de ce territoire.
Merci, monsieur.
Et permettre qu'au début de 2014, déjà, au moins la population et les opérateurs économiques soit au diapason d'autres. Il y a des mesures importantes que nous avons annoncées. Et déjà ce soir, nous avons tenu une réunion du gouvernement provincial pour que chaque ministère puisse s'impliquer et que des résultats soient visibles dans les prochains jours.
Merci, pour que monsieur le gouverneur.
Que l'autorité de l'État est en
merci,
train de
s'installer
et la différence est créée entre les mouvements rebelles et l'autorité.
Merci, monsieur le gouverneur. On n'a plus de temps. Je considère cela aussi comme votre conclusion, professeur Pierre Virgence. Un mot en guise de conclusion.
Eh bien, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les amis du Congo de voir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu prendre l'initiative. Et effectivement, on verra dans les jours qui viennent si cette initiative est durable, si le renforcement et la restructuration des FARDC est une modification structurelle des rapports de force, ou bien si ça n'aura été qu'un épisode. Et là, on verra effectivement aussi de quelle manière le M23 va se réorganiser ou non, va bénéficier ou non de nouveaux appuis, de nouveaux approvisionnements. Et là, on verra effectivement dans les jours et les semaines qui viennent si nous avons assisté ici à un tournant fondamental de la guerre du Congo.
Merci, professeur. Merci, professeur. Maître Juvenal, en 15 secondes.
En guise de conclusion, je peux dire que vouloir ce pouvoir, notre souci, et ça nous demandons toujours au gouvernement, c'est d'afficher une volonté politique claire. Eh bien, lorsque le vouloir est là, le pouvoir arrive naturellement.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Rediffusion demain 4h15 heure de Kinshasa. Au revoir.